Vous écoutez, on lit pour vous.
Vitamine D, l'allié sous-estimé contre les infections hivernales. Un texte d'Oriane Polge, paru le 5 janvier 2026 dans Science et Vie. De nombreuses personnes présentent un taux de vitamine D inférieur au seuil optimal sans le savoir. La dernière recherche montre que ce déficit discret peut avoir des conséquences concrètes sur la résistance immunitaire, en particulier l'hiver. Une vitamine au rôle longtemps sous-évalué. Si l'on connaît bien la vitamine D pour son effet sur la solidité des os, son implication dans les défenses immunitaires a longtemps été négligée. Cette vision partielle s'explique autant par des priorités historiques en santé publique que par la complexité de ses interactions biologiques. Aujourd'hui encore, le dosage de cette vitamine reste absent de nombreux bilans sanguins standards. Diane Stadler, experte en nutrition à l'Oregon Health and Science University, explique que les médecins ne prescrivent plus toujours ce dosage. La carence est désormais supposée fréquente chez beaucoup de patients. Pourtant, ce manque invisible concerne un élément clé du bon fonctionnement du corps. En parallèle, nos modes de vie se sont radicalement transformés. La réduction de l'exposition solaire, en raison du travail en intérieur ou de la sédentarité, limite la production cutanée de vitamine D. Autrefois assurée par la vie en extérieur, cette synthèse naturelle s'est effondrée en quelques générations, rompant un équilibre évolutif vieux de milliers d'années. Ce que la science révèle du lien entre vitamine D et système immunitaire. La vitamine D ne se contente pas de fixer le calcium dans les os. Elle joue aussi un rôle clé dans la régulation du système immunitaire en modulant à la fois l'immunité innée et adaptative. Le Dr. Michael Hollick, professeur à l'Université de Boston, insiste sur sa capacité à optimiser la réponse immunitaire face aux virus et bactéries. Un article de BuzzFeed rapporte les travaux de Hollick sur la vitamine D. Les personnes carencées présentent un risque plus élevé de contracter la COVID-19. Ce risque grimpe de 54 % avec des formes souvent plus sévères. Le manque de vitamine D ne provoque pas la maladie, mais affaiblit les défenses naturelles, surtout en hiver. Ce lien se retrouve aussi dans la réponse au vaccin. Selon Stadler, un bon taux de vitamine D améliore l'efficacité des vaccins saisonniers, comme ceux contre la grippe ou le pneumocoque. La Cleveland Clinic rappelle pour sa part que ce micronutriment agit comme un catalyseur de l'immunité, permettant une meilleure production d'anticorps après vaccination. Ces données changent profondément la perception que l'on peut avoir d'un nutriment autrefois jugé secondaire. Prévenir plutôt que guérir, les leviers accessibles à tous. Corriger une carence en vitamine D ne demande ni médicaments complexes ni régime restrictif. L'alimentation peut aider en partie avec les poissons gras, les œufs ou les produits laitiers enrichis. Mais ces sources ne suffisent pas à toujours atteindre un bon niveau. L'exposition au soleil reste une autre solution, mais elle dépend de nombreux facteurs. La latitude, la saison, la couleur de peau et le temps passé dehors influencent beaucoup son efficacité réelle. Elle reste donc difficile à généraliser. Dans ce contexte, la supplémentation orale s'impose comme une stratégie fiable. Le Dr. Hollick recommande entre 2000 et 5000 unités internationales, UI, de vitamine D3 par jour pour atteindre un taux sanguin compris entre 40 et 60 nanogrammes par millilitre. Ces niveaux, bien au-delà des standards minimums, permettraient à l'organisme de mieux affronter les agressions hivernales. Stadler évoque même une fourchette idéale supérieure à 50 nanogrammes par millilitre pour garantir une immunité efficace. Ces doses sont sûres pour la majorité des adultes, à condition d'être encadrées médicalement, notamment chez les personnes souffrant de pathologies rénales ou digestives. Certaines populations doivent redoubler de vigilance. Les personnes âgées, celles à la peau foncée ou vivant dans des régions peu ensoleillées, sont plus à risque de carence. Pourtant, une supplémentation bien dosée peut corriger facilement ce manque. Dans un monde plus sédentaire et exposé aux infections respiratoires, garder un bon taux de vitamine D devient essentiel. Ce n'est plus un simple conseil d'hiver, mais un vrai enjeu de santé. C'était Vitamine D, l'allié sous-estimé contre les infections hivernales. Un texte d'Oriane Polge, paru le 5 janvier 2026 dans Science et Vie.
Institutions et commerce tentent un rapprochement avec les itinérants. Un texte de Marco Fortier, paru dans Le Devoir. Dans le vaste espace public, à l'intérieur de la place des Arts, un homme somnole sur un banc, prostré, dans un silence inquiétant. Est-il inconscient, en surdose? Trois jeunes femmes portant un dossard bleu s'approchent et tentent de le réveiller. Elles le secouent doucement, puis un peu plus fort. « Monsieur! Monsieur! Monsieur !» L'homme finit par se redresser, les cheveux ébouriffés, les traits tirés. Il pige un biscuit au chocolat dans le sac déchiré qui traîne sur son banc, prend une bouchée et s'essuie les lèvres. « Je m'étais endormi. J'ai mal dormi la nuit dernière, » raconte l'homme à ses trois anges gardiennes. Rabia Rachid, Lina Badi et Marie Wallen, âgées de 24 à 27 ans, sont intervenantes psychosociales dans une brigade de médiation de la Société de développement social, SDS. Ces équipes de patrouilleurs, créées en juin 2025, parcourent le quartier des spectacles au centre-ville de Montréal. Mission : favoriser la cohabitation entre les dizaines de personnes itinérantes du secteur et les gens dits « ordinaires », travailleurs, touristes, publics venus assister au spectacle. En cet après-midi glacial de décembre, l'homme endormi de la place des Arts a trouvé ici un banc au chaud. Les trois anges gardiennes de la brigade lui demandent comment elles peuvent l'aider. Voudriez-vous des bottes? Un manteau? Une tuque, des mitaines? On va vous en trouver dans les organismes du quartier. C'est sûr que oui, avec le temps qui fait dehors, répond l'homme de plus en plus éveillé. Il s'appelle Louis Jobin, il a 68 ans. Il est venu de Québec il y a 3 ans, après avoir été évincé de son logement, et perdu peu après son emploi dans la livraison. D'une difficulté à l'autre, Louis Jobin a commencé à consommer toutes sortes de cochonneries pour engourdir son mal-être. Crystal meth, fentanyl. Il dort dehors, dans des refuges d'urgence ou dans des halles de chaleur. Une place au chaud. La bonne nouvelle, c'est que les Louis Jobin de ce monde peuvent désormais espérer une petite place à la chaleur durant la journée dans une des institutions du quartier des spectacles, Place des Arts, Complexe des Jardins, aire de restauration Le Central ou même au Palais des Congrès un peu plus loin. Jusqu'à récemment, les itinérants peinaient à se faire accepter dans ces lieux publics. La cohabitation était difficile entre les gens marginaux et le monde ordinaire. Chaque partenaire du quartier des spectacles gérait du mieux qu'il pouvait les situations de crise, chacun de son côté. On s'est dit qu'on pourrait se regrouper et s'entraider. Les personnes itinérantes font partie de notre réalité. On ne peut pas faire comme si elles n'étaient pas là, dit Marc Randol, directeur exécutif du partenariat du quartier des spectacles. On le rencontre à l'Esplanade, tranquille, un lieu emblématique du quartier, qui attire en tout temps des dizaines de personnes, y compris des itinérants. Le café où trône un foyer au gaz, au deuxième étage, surplombe la patinoire baignée dans une musique du temps des fêtes. Préoccupée par l'ampleur de la crise de l'itinérance, la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a lancé le mois dernier un appel à la mobilisation générale. Elle a invité les établissements et les commerçants à ouvrir leurs portes aux sans-abri, à leur permettre de se réchauffer et d'utiliser leurs toilettes. Tout le monde est gagnant. Dans le quartier des spectacles et dans le quartier latin, tout près de là, on n'a pas attendu le cri de ralliement de la mairesse pour tendre la main aux gens les plus vulnérables. C'était devenu une nécessité dans ce secteur, devenu l'épicentre de la crise de l'itinérance. La Société de développement social, un organisme à but non lucratif, a été appelée à la rescousse. La brigade de médiation sociale parcourt les établissements et les ruelles du secteur entre 7h30 et 23h, 7 jours sur 7, été comme hiver. L'initiative de 3,5 millions de dollars est financée par la ville, par le quartier des spectacles et par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Ces intervenants et intervenantes, comme celles qui ont aidé Louis Jobin à la Place des Arts, ont pour mission d'accompagner les personnes vulnérables, les aider à se faire une place dans les lieux publics et inviter les gens dits « normaux » à accepter ceux qui vivent dans la marge. « Tout le monde est gagnant », estime Marc Randol. La présence de la brigade a fait diminuer le nombre d'incivilités, entre autres durant les festivals. Et les personnes vulnérables ont accès à des lieux d'où elles étaient exclues, notamment pour se réchauffer. Dans l'allée du crack. Nous continuons notre tournée du quartier avec les anges gardiennes Rabia Rachid, Lina Badi et Marie Wallen. Nous voilà dans la rue Berger, surnommée l'allée du crack. Une demi-douzaine de jeunes flânent devant la porte de Cactus, organisme qui offre une supervision de la consommation de drogue pour prévenir les surdoses et le rejet de seringues dans les rues. Un des jeunes inhale sous nos yeux un mélange de crack et de fentanyl. Il fixe le vide, immobile, perdu dans son vertigineux voyage. Ne lui parlez pas. Il se sent bien en ce moment, dit un membre du groupe aux trois intervenantes, qui sont accueillies comme des amies. Elles offrent des tucs à ceux qui n'en ont pas. « Merci, mais c'est d'un logement dont j'ai besoin », lance un jeune sur un ton indigné. Un peu plus loin, rue Sainte-Catherine, une jeune femme semble perdue, accotée contre un mur couvert de vomi. Elle accepte les chaussettes qu'on lui tend, tout en fouillant dans son sac à dos. Des passants, aux yeux hagards, saluent les trois intervenantes en marchant d'un pas hésitant sur le trottoir couvert de neige. On distribue des tucs et de la chaleur humaine. L'UQAM sur la ligne de front. Un peu plus tôt, 400 mètres plus à l'est, nous avions rencontré à son bureau Priscilla Ananian, vice-rectrice associée de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, pour la relance du quartier latin. Vous avez bien lu. Le quartier a tellement besoin d'amour que l'UQAM a confié à cette professeure en urbanisme le mandat de contribuer au développement du secteur, durement frappé par l'itinérance depuis la pandémie. On est dans un quartier où il y a plein de personnes différentes. Il faut apprendre à vivre ensemble, résume-t-elle. L'UQAM offre une halte chaleur pour itinérants pour le troisième hiver d'affilée. Des intervenants de la SDS viennent dans un local de l'École des sciences de la gestion pour accueillir une cinquantaine de sans-abri, environ 20 nuits par hiver. Ils dorment sur des chaises et ont accès aux toilettes, à du café et à des gants. On ne veut pas être une forteresse, dit Priscilla Ananian. Environ 95% des toilettes du campus sont accessibles aux personnes itinérantes. Le mot d'ordre est aussi d'accueillir ceux qui viennent se réchauffer dans les espaces communs, tant qu'ils respectent le code de conduite de l'établissement. On ne se couche pas par terre, on parle à voix basse et on s'abstient de consommer drogue et alcool. L'UQAM s'apprête aussi à participer à une brigade de médiation sociale comme celle du quartier des spectacles, avec la collaboration de la grande bibliothèque, voisine du campus, qui ouvre ses portes depuis longtemps aux personnes marginalisées. Comme le dit souvent la mairesse Soraya Martinez-Ferrada, les itinérants sont aussi des citoyens. Ils ont le droit à la dignité. C'était Institutions et commerce, tente un rapprochement avec les itinérants, un texte de Marco Fortier, paru dans Le Devoir.
Démarche pour faire atterrir la Brigade Jeunesse pour le climat au Québec. Un texte de Florence Tison, paru dans Le Devoir. Pourquoi ne pas créer une armée de jeunes pour débarrasser le pays des énergies fossiles? La proposition, portée depuis 5 ans par des militants climatiques, s'est taillée une place dans le dernier budget fédéral. Au Québec, on commence à préparer la mobilisation. L'idée s'inspire de l'effort de guerre dont avait fait preuve le Canada lors de la Seconde Guerre mondiale. À quoi cela pourrait-il ressembler aujourd'hui dans le contexte d'une autre menace existentielle? Demande Syd Klein, l'auteur du livre « A Good War, Mobilizing Canada for the Climate Emergency » 2020, qui explore précisément ce parallèle. Depuis la Colombie-Britannique, M. Klein, un proche du nouveau Parti démocratique, fait campagne avec des dizaines de collaborateurs pour la création de la Brigade Jeunesse pour le climat, qui compterait 20 000 jeunes de 18 à 35 ans. Ceux-ci apprendraient et exerceraient des métiers liés à la transition énergétique. Facture annuelle, 1 milliard de dollars. William Côté, un Québécois de 25 ans qui habite à Squamish, en Colombie-Britannique, a participé en 2024 à un programme similaire, mais de plus petite envergure, le Youth Climate Corps BC. Détenteur d'une licence de pilote d'avion, le jeune homme avait l'impression de ne pas pouvoir exercer son plein potentiel dans ce milieu. Il s'intéressait à l'environnement, mais n'avait aucun diplôme pertinent. M. Côté, qui aime travailler de ses mains, a décroché un poste au Youth Climate Corps BC. Durant 5 mois, il a appris, entre autres, à calfeutrer des maisons mal isolées. Ça m'a ouvert les yeux sur le besoin criant de petites entreprises en efficacité énergétique, dit celui qui envisage maintenant de se lancer en affaires. Ce serait le fun de ne pas harnacher nos dernières rivières, fait-il remarquer. L'idée du programme, c'est de viser les emplois de demain, explique Katia Forg, une organisatrice impliquée dans l'implantation de la Brigade Jeunesse pour le climat au Québec. On se demande où est-ce qu'il nous manque de main-d'œuvre pour réussir notre transition écologique, ajoute celle qui est aussi co-directrice d'Écosystème Jeunesse Canada. Des exemples? Les participants pourraient œuvrer en construction, rénovation éco-énergétique, bâtiments résilients, bâtir des infrastructures de transport public, exécuter des projets de restauration écologique, élaborer le plan climatique de municipalité, venir en aide aux sinistrés des feux de forêt et des inondations, contribuer à la prévention de ces aléas, etc. La brigade se voudrait aussi un refuge pour les jeunes sans emploi, à la manière des forces armées. Elle mettrait par ailleurs l'accent sur le leadership autochtone, notamment en offrant des perspectives aux jeunes des communautés nordiques. Et grâce à des ententes avec des écoles et des groupes professionnels, les jeunes pourraient faire reconnaître leurs acquis. En 2025, le budget du gouvernement de Mark Carney a accordé 40 millions de dollars sur 2 ans à Emploi et Développement social Canada pour la création d'un service jeunesse pour le climat. Celui-ci offrira des formations et des stages rémunérés visant l'acquisition de compétences vertes, ce qui permettra de bâtir une économie concurrentielle à l'épreuve du climat. M. Klein se réjouit de ce premier pas, obtenu après d'intenses efforts de représentation de l'organisme Climate Emergency Unit, financé par la Fondation David Suzuki. Il pense toutefois qu'il s'agit du seul point positif d'un budget autrement désastreux pour le climat. Et avec 40 millions, on ne peut embaucher que 350 jeunes par année. Ça n'aura pas d'incidence réelle sur le chômage chez les jeunes, ni sur les émissions, dit-il. Au Québec, il n'en demeure pas moins que cet argent assure la mise en mouvement du projet partout au pays. Au moins 5 personnes y travaillent activement au Québec. Au printemps, elles ont organisé des assemblées populaires à Montréal et à Québec. Elles s'apprêtent à multiplier les appels auprès de potentiels milieux d'accueil pour les stages. On veut s'assurer d'avoir l'appui du Québec dans cette campagne-là, explique Marie Maltais, la cofondatrice du réseau Éducation aux enjeux environnementaux, qui travaille sur la brigade depuis 2024. L'équipe va aussi approcher les partis politiques québécois pour tenter de se rallier leur soutien. M. Klein espère que des provinces et des sociétés d'État voudront doubler la mise du fédéral. L'ancien PDG d'Hydro-Québec, Michael Sabia, aujourd'hui chef de la fonction publique fédérale, a déjà déclaré que le défi numéro un de la transition énergétique, c'est l'accès à la main-d'œuvre. En août dernier, la Société d'État a annoncé l'octroi de 100 millions de dollars en 3 ans pour former la main-d'œuvre qui travaillera sur des projets énergétiques. En 2023, un sondage mené auprès de 2200 adultes a révélé que 41 % des jeunes de 18 à 35 ans voudraient probablement ou certainement participer à une éventuelle brigade jeunesse pour le climat. Il y a vraiment un fort engouement chez les jeunes hommes, ce qui est cool parce que souvent les métiers en environnement intéressent surtout les femmes, souligne Katia Forg. M. Klein n'a pas de doute que les jeunes vont sauter à pieds joints dans le projet. Il espère qu'Ottawa va officiellement lancer le service d'ici mars 2026. Surtout, il veut que le fédéral prenne véritablement en charge le programme et ne se contente pas de le déléguer en signant un chèque. Tant que l'État ne fera pas preuve de leadership, nous ne parviendrons pas à susciter une mobilisation d'envergure, conclut-il. C'était Démarche pour faire atterrir la Brigade jeunesse pour le climat au Québec. Un texte de Florence Tison, paru dans Le Devoir.
L'importance de s'émerveiller au travail, un texte de Jean-François Berthollet, paru dans la presse. Notre cerveau repère davantage le négatif que le positif. C'est vrai dans la vie courante comme dans le cadre du travail. Si cet état nous a historiquement permis de survivre en repérant les dangers qui menaçaient notre survie lorsque nous vivions dans des conditions rudimentaires, est-ce réellement adapté à notre époque? Notre cerveau pourrait-il gagner à s'émerveiller davantage du positif et en tirer des bénéfices à la fois pour notre travail et notre santé? Une théorie qui me fascine beaucoup en biologie évolutive est celle du décalage évolutif, soit l'idée que les traits d'un organisme adapté à un environnement ancestral ne sont plus optimaux ou deviennent néfastes dans son environnement actuel. C'est ce qui explique qu'on aime tant le sucre, le gras et le sel. Nous en avions historiquement beaucoup besoin dans notre alimentation et avions intérêt à en dénicher. C'est pareil avec le travail. Chérie, comment a été ta journée au travail? À cette question, on risque de détailler les défis et les irritants que nous avons affrontés aujourd'hui. Mais si la question a été plutôt « Qu'est-ce qui t'a impressionné ou émerveillé aujourd'hui ?» la conversation serait-elle différente? Elle pourrait assurément contribuer à notre santé. Les bénéfices de l'émerveillement sont nombreux selon les recherches. Celui-ci réduit littéralement les marqueurs d'inflammation dans notre corps. Être émerveillé nous énergise et peut aider à persévérer face à des périodes d'exigence. Cela permet également d'élargir les perspectives et d'avoir une vision plus expansive ce qui est taillé sur mesure pour notre monde du travail où les solutions ne viennent pas uniquement de l'intensité, mais aussi de la capacité à voir autrement. Favoriser les moments d'émerveillement augmente le sentiment de sens dans la vie et réduit littéralement notre ego. On est moins centré sur son petit nombril. Une étude publiée dans la revue Nature en 2025 montre d'ailleurs que d'intégrer les moments d'émerveillement dans sa vie réduit le stress et les symptômes de dépression, en plus d'améliorer le bien-être. Pour en tirer les bénéfices, c'était très simple. En fait, les chercheurs invitaient les participants à porter une attention importante aux choses qu'ils apprécient, qu'ils valorisent ou qui les impressionnent. Ensuite, à ralentir et prendre un temps d'arrêt pour déguster ces moments, voire les amplifier lorsqu'ils surviennent. Le défi étant de le faire 3 fois par jour, même si cela ne dure que 30 secondes. Impact des autres. Qu'est-ce qui est plus susceptible de générer cet émerveillement ? Nous pensons inévitablement à la nature grandiose, à la beauté d'une œuvre d'art ou à l'architecture exceptionnelle d'une ville. Mais sachez que des chercheurs ont identifié la plus grande source d'émerveillement, les humains. Que ce soit leur courage, leur gentillesse, leur capacité à affronter des épreuves avec intégrité, nous sommes fascinés par ce qu'on pourrait appeler la beauté morale. Voir des gens qui risquent leur vie pour les autres, tout récemment le héros de la plage de Bondi en Australie, peut assurément nous émerveiller et nous rassurer sur le fait que les meilleurs anges de notre nature sont bien vivants. Au travail, ce sont aussi souvent les interactions avec d'autres personnes qui sont susceptibles de générer des moments d'émerveillement. Cela peut survenir lorsqu'une personne ose dire les vraies choses, même lorsque c'est très difficile, au détriment de sa carrière, ou lorsqu'on voit des personnes démontrer des habiletés hors du commun. Récemment, j'assistais à la conférence d'un ami. Sa capacité à synchroniser son discours avec la vidéo qu'il présentait, à la seconde près, relevait du grand art. Et au-delà de l'appréciation, cela peut nous pousser à l'action. Et si j'impliquais cette synchronisation poétique à travers mes propres projets ? Bref, cela nous incite à ne pas uniquement corriger nos faiblesses, mais à définir des façons pour bonifier notre propre travail. En formation, je demande souvent aux gestionnaires qui sont les personnes qui les inspirent profondément. J'ai longtemps été surpris de voir à quel point les gens n'arrivent souvent pas à identifier une personne. Pourtant, les humains fonctionnent par imitation sociale et observer des gens qui incarnent des valeurs importantes pour nous peut être un moteur important pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Face au monde du travail exigeant, le burn-out n'est jamais bien loin. Celui-ci est une compression de l'esprit. On dit d'ailleurs souvent qu'on voit tout en noir lorsqu'on est épuisé professionnellement. L'émerveillement n'en serait-il pas l'antidote, un genre de mode de récupération neuronale ? Cette année, pourquoi ne pas prendre en note chaque jour un élément qui vous a émerveillé au travail ? Quelle belle lecture de fin d'année cela ferait ! C'était « L'importance de s'émerveiller au travail », un texte de Jean-François Berthollet, paru dans la presse.